Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ces pirates sont souvent d'anciens pêcheurs ou des gardes-côtes somaliens. Ils partent en mer pendant 2 semaines à 1 mois à bord de petites embarcations rapides, souvent lourdement armées. Ils attaquent des bateaux étrangers, de croisières, de tourisme, mais parfois aussi des super-pétroliers ou des navires de guerre. Ils réclament alors des millions de rançons. Ils appartiennent à des gangs criminels organisés qui exploitent leur pauvreté, l'absence d'État et fleurissent notamment depuis que les fonds marins sont ratissés par la surpêche étrangère. Ils ont surtout sévi entre 2005 et 2012 et entre ces dates, selon les estimations de la Banque mondiale, les rançons ont rapporté aux pirates et à leurs commanditaires entre 339 et 413 millions de dollars. En avril 2008, le Ponant, un voilier de luxe français, est victime d'une de ces attaques. Les 30 membres d'équipage sont pris en otage avant d'être libérés sur rançon. Les pirates sont ensuite arrêtés et jugés. En fin d'année 2009, où se passe notre histoire, selon le Bureau maritime international, 217 navires ont été attaqués et 47 capturés. Parmi ces derniers, un voilier nommé le Tanit, où se trouve alors Chloé, qui raconte aujourd'hui comment elle en est venue à défendre l'un des pirates. Un récit de Rémi Dibowski-Douatte.
Je m'appelle Chloé Lemasson. Et l'histoire dont on va parler commence il y a exactement 16 ans, puisque le 22 mars 2009, avec mon mari, mon fils et 2 amis qui sont nos équipiers, nous quittons le port d'Al-Mukalla au Yémen pour descendre dans le sud de l'océan Indien en direction de Madagascar. Nous vivons à bord de ce bateau depuis juin 2007. Et nous avons levé l'ancre du golfe du Morbihan en juillet 2008 pour un périple sans durée dans le temps, une vie différente qu'on avait choisi donc de mener sur l'eau et plutôt a priori dans la zone de l'océan Indien entre le nord de Madagascar et Mayotte. Florent, comme moi, en fait, on était passionnés de voile, de longs voyages, que ce soit par expérience, par des amis, parce qu'on est né à Vannes et qu'ici c'était une chose assez courante, et baigné par de nombreux récits. Et c'est vrai que quand Colin est né, on a voulu quitter la France et très vite s'est dessiné le choix d'acheter un bateau. Et finalement, c'est un peu de la facilité d'avoir fait ce choix de partir et de s'en éloigner pour pouvoir vivre autrement, dans notre esprit, plus facilement. Il y avait déjà eu l'attaque du Ponant. Et on savait, en se dirigeant dans cette zone, de toute manière, qu'il y avait une zone de piraterie, le détroit de Bab el-Mandeb, le sud Yémen, le nord Somalie. Ce n'est pas une zone super. On était très renseignés sur le sujet. Flo était branché sur les sites spécialisés et sur les sites militaires pour prendre nos décisions. Sur le bateau, ça se passe très bien. Enfin, c'est la vie en mer, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est la galère, on se dit qu'est-ce que je fous là, et puis il y a des moments magnifiques. Voilà. Le 22 mars 2009, avec mon mari, mon fils et 2 amis qui sont nos équipiers, nous quittons le port d'Al-Mukalla au Yémen pour descendre dans le sud de l'océan Indien en direction de Madagascar. À la mi-mars, entre Djibouti et Aden, nous sommes accostés par un bateau de la marine française qui insiste énormément pour nous parler, qui nous prévient que le corridor de sécurité a été déplacé à 500 milles à l'est de la côte somalienne et qui nous invite à communiquer notre position quotidiennement à un Indien qui est le commandement des forces armées internationales dans l'océan Indien contre la piraterie à ce moment-là. Nous, ça nous ennuie un peu parce que les conditions météo sont pas du tout bonne pour faire cap plein est. On en a déjà plein les bottes, on n'a qu'une envie, c'est de virer plein sud. Et qu'en fait, de partir vers le 60e, ça nous rajoute encore une semaine dans ces mauvaises conditions. Mais on le fait. Comme on est en relation téléphone satellite avec nos parents respectifs, on décide que ma mère, tous les jours, va leur donner notre position. Et puis, fin mars, début avril, ça fait donc une bonne semaine, 10 jours qu'on est en mer, on fait route plein sud, et là, on n'est plus qu'à une toute petite semaine de navigation des Seychelles. On se dit même qu'on est quasiment sorti de la zone, en fait, où on est en alerte plus intense qu'ailleurs, on va dire. Et donc, le samedi 4 avril, en fin de matinée, je suis à la barre. Florent est dans le carré avec Colin. Et je crois qu'un des coéquipiers sur le pont et l'autre doit être aussi dans le carré. Et en fait, j'ai juste envie de dire, ils sont là, c'est pour nous, parce qu'il y a le skiff des pirates qui est déjà quasiment à toucher l'avant du bateau, bâbord. Des skiffs, c'est des coques blanches qui sont bleues à l'intérieur. Et il faut savoir qu'on est à 985 km des côtes. Donc on n'est pas sur une mer d'huile, c'est mouvant, c'est... Et je ne peux pas expliquer, mais je ne les ai pas vus arriver. Ça se passe très vite. Ils attrapent le filet, ils montent à bord. Ils sont bien sûr agressifs verbalement et nous mettent en joue le temps qu'on se mette tous à genoux dehors, de descendre dans le bateau, de vérifier s'il y en a qui se cachent, de vérifier si on a un flingue, voilà. Quand on est à genoux, forcément, il y a ce moment où on dit « ne nous tuez pas, s'il vous plaît, please », voilà. Et ça dure maximum 30 minutes et ils se jettent sur les bidons d'eau. Ils ont faim, ils ont soif. Ils étaient en mer, eux aussi, depuis à peu près fin mars, à essayer de faire des attaques différentes. Et passé ce moment-là, eh ben, ils nous disent de faire route plein est. On se dit que ben, on va aller à la côte en Somalie. Et puis on va payer une rançon qu'on remboursera toute notre vie. On va se faire aider, on va mobiliser autour de nous. On va s'endetter à vie, mais on va payer une rançon et puis on va repartir. On voit bien qu'ils sont... Enfin, c'est pas des soldats, quoi. Ils sont pas à l'aise avec leur Kalachnikov. On a plus la peur d'une balle perdue que vraiment qu'ils nous tirent dessus. Enfin, ou qu'ils nous menacent dans un moment de colère et que ça parte. Et puis, il y a un semblant de routine qui va s'installer très vite. Quand la routine se met en place, ben, ils ne nous menacent plus du tout avec leurs armes. Le chef, il est un peu con, il est agressif dans sa manière de parler. Mais en fait, ils ont surtout peur, parce qu'ils sont dans un inconnu total. Ils sont presque plus paniqués que nous. On essaye d'échanger par des signes, c'est compliqué. Et dans l'après-midi, on est survolé par un avion. Un avion pas très gros et qui nous survole pas très haut et qui fait des boucles. On a un pavillon français, il y a 5 Africains qui sont tous sur le pont, et il y a un skiff de 5-6 mètres qui est accroché par un bout derrière le bateau. Suite à ça, eux, ils paniquent, en fait, et donc ils coupent le bout, et ils laissent le skiff partir. Puis bon, comme ça passe très vite et que l'avion repart, tout le monde oublie et on reprend, entre guillemets, la routine. Donc jusqu'au lundi soir, bah, ils mangent, ils dorment, ils boivent. S'ils doivent rentrer dans le bateau, ils posent leurs armes à l'extérieur. Alors on leur apprend à servir d'un savon là et d'essayer de se laver. Voilà. Jusqu'au lundi soir, on est survolé. Là, nous, on le reconnaît, c'est un gros avion de la Marine nationale française et qui nous survole vraiment bas. Ça leur met les nerfs, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire mitrailler. Et donc, forcément, ils nous mettent en joue, on est tous sur le pont, et voilà, c'est un moment très, très stressant. Et le mercredi, dans l'après-midi, on est approché par 2 bateaux militaires français, des frégates, enfin, en tout cas, il y en a une, je suis sûre. Il faut bien se rendre compte que c'est des bateaux qui font aux alentours de 120 mètres de long. Et nous, en comparaison, on fait 12,50 m. C'est très, très impressionnant. Donc, l'ambiance devient très tendue à bord. Bien sûr, ils prennent leurs armes, ils nous menacent, ils échangent énormément entre eux, on comprend rien, évidemment. Donc à partir de là, il y a vraiment une peur qui s'installe parce que tout est irrationnel. Moi, par exemple, je suis dans un état d'esprit où je ne veux pas dormir parce que je sens que la plupart d'entre eux sont incapables de me tuer, de nous tuer, Colin et moi, et que s'ils le font, ils vont le faire dans notre sommeil. Donc je ne dors plus. Alors, nous, du bateau, on voit les snipers sur le pont des frégates. Donc, eux, ils se disent qu'ils vont se faire tirer comme des lapins. Et puis, jeudi, les militaires sur la frégate nous parlent avec des gros haut-parleurs, parlent un coup en somali, un coup en français. Ils nous disent de stopper le bateau, sinon ils vont utiliser la force. Ils disent qu'ils vont tirer dans les voiles. Moi, à ce moment-là, je suis dans le carré avec Colin. À la pointe avant, il y en a un qu'à l'époque, on appelle Émail Diamant, qui s'appelait Abdi, et un autre qu'on appelait Luna. Ils sont paniqués, ils ont leurs armes en main. Et sur le pont, il y a un équipier, mon mari, et deux autres pirates, les trois sans doute même. Et puis il y a un équipier qui est dans la cabine arrière, je crois. Ça se met à tirer. Mais à tirer, mais un truc de fou, quoi. Et j'entends mon mari crier, donc je pense tout de suite qu'il a été touché par une balle. Et ça s'arrête. Et là, mon mari descend et il m'explique qu'ils ont tiré dans le mât pour faire tomber la voile. En fin d'après-midi, donc après 3 jours très très tendus, l'armée décide de lancer l'assaut. Alors là, en l'occurrence, pour cet assaut, les militaires comme ça, des forces spéciales, fonctionnent avec des idées de feu vert, feu rouge. Donc, ils appellent M. Sarkozy, président de l'époque. C'est le COS, commandement des opérations spéciales. Donc, le ministre de l'armée est squeezé. Et l'amiral dit, ben voilà, il y a plus de feu rouge que de feu vert. Je suis contre lancer l'opération. M. Sarkozy dit, vous la lancez quand même. Donc, mise en danger des militaires, des otages, et évidemment des pirates. Donc ce commando, ces 6 ou 7 hommes qui arrivent, c'est des conditions catastrophiques pour mener leur opération. Ça va très très vite, c'est une histoire de 2 ou 3 minutes. Donc Florent, Colin et moi, on est dans notre cabine à l'arrière et nos deux équipiers sont dans la cabine à l'avant. On entend les tirs qui lancent le début de l'assaut puisqu'ils tirent donc sur les deux pirates qu'ils aperçoivent. Moi, je suis concentrée sur Colin, que je maintiens dans mes bras. Et là, il y a un militaire qui est au-dessus du pont. Et pendant ce même instant, en fait, dans ce quart de seconde, enfin, c'est vraiment hyper rapide, j'entends Florent qui dit « Hé, à l'avant !» Ils sont à l'avant, en parlant de nos équipiers. Ils voient un militaire, donc son premier réflexe en tant que capitaine, c'est de penser à ses équipiers. Je pense qu'il a levé la main pour le dire. Et dans la foulée, je l'entends dire « Oh !» Genre « Qu'est-ce que tu fous, quoi ?»« Oh !» Et il me tombe sur les genoux. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est tombé dans les pommes et je le secoue. Et le quart de seconde d'après, j'ai ces militaires qui rentrent par la coursive, qui sont 2, 3, 4, je ne sais pas, avec tout leur truc, là, leurs jumelles, leurs masques et tout le bordel, et qui nous pointent. Et je dis « C'est nous, c'est nous !» Et en fait, c'est là que je vois qu'il y a du sang partout et que Florent était touché. Je suis extraite du bateau avec Colin. Je vois du sang partout. Je vois un cadavre de pirates. Voilà. Donc tout ça est allé très très vite. Et dans les minutes qui ont suivi, nous, on a été rapatriés sur la frégate. Et mes équipiers arrivent. Et donc on échange. Je leur dis ce qui s'est passé. Et ils me disent ce qui s'est passé. À nous quatre, on a tout vu en fait. Eux, ils ont le point de vue de l'avant du bateau. Nous, on a le point de vue de l'arrière. À ce moment-là, je comprends que ce ne peut être qu'un militaire qui a tiré sur Florent. Donc il y avait 5 pirates à bord de Tanit, notre bateau. 2 sont morts pendant l'opération et ont été déposés en Somalie par l'armée française. Et 3 ont été faits prisonniers, dont un blessé. Et ils vont être rapatriés en France, un petit peu près en même temps que nous, en France, et puis à Rennes, après, brigade, gendarmerie, tout le tralala. Voilà, on rentre, on retrouve notre famille, on enterre Florent, enfin, on fait une cérémonie, tout ça. Et je comprends qu'il va falloir que je me batte, parce que personne va vouloir dire que la balle qui a tué Florent est française. Ça arrangerait tout le monde qu'on remette la faute sur ces trois pirates qu'on a ramenés. Et que, en plus d'actes de piraterie et de prise d'otages, pourquoi pas leur mettre sur le dos un homicide. Et M. Sarkozy voulait me rencontrer, et donc j'ai accepté ce rendez-vous avec le président. J'étais seule avec M. Sarkozy et M. Guéant. Très vite, il m'a dit « Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On va vous donner de l'argent. C'est quand même moins dur dans le malheur avec de l'argent. » J'ai dit, mot pour mot, je crois quasiment, j'ai dit, mais monsieur Sarkozy, vous comprenez bien que là, vous me dites que vous me proposez de l'argent. C'est parce que vous voulez pas que je dise que la balle est militaire, c'est pour me faire taire. Mais pas du tout, madame, mais pas du tout. C'est juste que vous comprenez, vous êtes veuve, une femme française, toute seule, avec votre enfant. Claude, comment on peut faire ? Combien on peut donner à madame ? Madame, vous pourrez raconter toute votre vérité, il n'y a pas de problème. Et j'ai refusé, parce que j'ai dit non, moi je veux d'abord la vérité. Je vais commencer à beaucoup me renseigner, à beaucoup enquêter, parce que ça a tenu de l'enquête. Comme je me suis portée partie civile, je peux lire toutes les dépositions, et donc assez facilement conforter ce qu'on s'était déjà dit et raconté avec mes équipiers. Ces trois pirates qui reviennent sont jeunes, jeune et paumé. Il y en avait un, Abdi. C'était celui avec lequel on a pu peut-être créer le plus de contacts et échanger, peut-être pas des sourires, mais on lui faisait plus confiance. Je ne les rencontrerai pour la première fois qu'en octobre 2013, au moment du procès. Et donc à la fin de ce procès qui dure une semaine aux Assises de Rennes, l'avocat général a conclu en me regardant droit dans les yeux et en se levant, je me souviens, et elle a dit « Madame Lemasson, la balle qui a tué votre mari est une balle française. » Voilà, ça c'était un moment très important que ça soit dit dans ce tribunal. Ces trois garçons, ça fait 4 ans que j'ai beaucoup enquêté, j'ai lu toutes leurs dépositions et je suis curieuse, je crois, de les rencontrer à nouveau. Et de peut-être pouvoir échanger différemment avec eux. Je ne les rencontrerai pour la première fois qu'en octobre 2013, dans une toute petite pièce qui est à l'intérieur de la salle des assises. Mais c'est vraiment une pièce minuscule, on se touche quasiment tous les quatre. J'ai quand même besoin de leur dire que je leur pardonne. Et en fait, il se trouve que c'est Abdi qui parle français. Et donc, c'est lui qui va se poser un petit peu en interprète entre nous quatre. Et puis, on va échanger des adresses pour pouvoir s'écrire. À la suite de ce procès, ils vont être condamnés à 9 ans de prison, sans OQTF en sortie de prison. Ils ne vont pas faire appel. Ils vont purger leur peine dans des établissements séparés. Tous vont m'écrire. Je vais tous leur répondre. Mais de manière très naturelle, ça va continuer avec Abdi et pas avec les deux autres. Puis assez vite, il m'appelle en fait de temps en temps. Il fait des efforts pour parler français, écrire français, comprendre français, puisqu'il m'appelle et qu'on peut entretenir des discussions au téléphone. Moi, j'habite à Madagascar à ce moment-là. Et il finira par sortir au bout de 6 ans. Décision de justice, mais j'imagine pour bonne conduite, il travaillait en prison, il a appris un métier, il n'y a eu aucun accrochage ou incident. Donc, on va se revoir comme ça, de manière ponctuelle, régulière, on n'habite pas la même ville, mais de temps en temps, il vient vers chez moi, de temps en temps, je vais vers chez lui. À partir du moment de sa sortie de prison, forcément, j'ai suivi un peu le parcours d'Abdi, aujourd'hui. Ça veut dire avoir des papiers, il avait envie de travailler. Donc je suis les nombreuses demandes qu'il fait, qui lui sont refusées. Il est tout le temps débouté, ça part et ça repart, il monte des dossiers. Donc j'ai témoigné comme ça plusieurs fois en sa faveur pour dire qu'on les a fait venir pour les juger. Donc derrière, on est censé accepter qu'ils purgent leur peine et qu'ils aient une deuxième chance. Et puis finalement, on est quand même 10 ans après sa sortie de prison, il a enfin le droit de travailler et obtenu le sésame qui lui permet de travailler puisque ça fait longtemps qu'il avait une proposition de boulot et donc il a aidé plein de gens chez Emmaüs. Et puis il enchaîne, il commence son CDI en cuisine, il est super content et quelques mois après il prend un studio. Et mois d'août, je décide d'aller le voir, c'est son jour de congé, il veut m'emmener dans le restaurant où il travaille justement. Donc je rencontre tout un tas de ses collègues, on est super bien accueillis, on mange bien, on passe un bon moment. Après, on repart dans Rennes, il me fait visiter son studio. Et puis dans l'après-midi, je lui dis « Allez, moi je file, je vais voir mon fils. » Et lui me dit « Ah ben moi je vais aller voir mes anciens collègues chez Emmaüs. » Et en fait le soir, il m'appelle et chez Emmaüs l'attendait une OQTF. La préfecture, dans son courrier, dit qu'il est normal qu'il reçoive cette OQTF assortie d'une menace à l'ordre public, puisqu'il a été clairement décrit dans les PV de l'époque comme étant chef de l'opération. C'est du grand n'importe quoi. Donc je réécris un courrier pour expliquer à la préfecture que toutes les preuves existent pour montrer qu'Abdi n'était pas chef de l'opération. C'était quand même tout l'objet de la semaine de procès aux assises de Rennes. Se monte le comité de soutien. Et Abdi, il a un grand réseau parce que tout le monde l'adore autour de lui, parce qu'il est hyper serviable, parce que toutes les années qu'il a passées à la communauté Emmaüs d'aider, et ben il a rencontré plein de gens. Et il a aidé plein de personnes âgées qui forcément se sont rapprochées de lui. On va à la première audience à Rennes avec toutes ces personnes du comité de soutien. Et puis je discute avec son patron. Et là, je me rends compte que son patron ne connaissait pas son passé. Son patron me dit, tu sais, moi, en fait, Abdi, je le juge sur ce que je connais de lui depuis 6 mois, qu'il travaille au restaurant. Mais ce qu'il a fait avant, ça ne m'intéresse pas. Et on rentre dans le tribunal. Et le premier à qui on donne la parole, c'est le mec qui représente la préfecture. Et là, il déballe un tissu de conneries. Eh ben, ils ont pris un voilier en otage et trucs. Et c'était complètement lunaire. Le deuxième mec qui représentait la préfecture, je crois qu'il savait même pas pourquoi il venait. Enfin, c'était... Là-dessus, la menace à l'ordre public est retirée. La menace à l'ordre public l'empêcherait, si elle était conservée, de refaire des demandes plus tard. Donc c'est vraiment crucial. Mais Abdi gagne pas du tout, hein, parce qu'il récupère pas son permis de travail et tout le tralala, hein. Eh bien, la préfecture fait appel. Et là, je pense que ce coup-ci, c'est le président de la cour administrative de Nantes qui a trouvé que c'était lunaire. Abdi a gagné, ils ont écouté, c'est des gens sensés, ils ont lu les documents qu'ils avaient et ils lui ont retiré, enfin, la menace à l'ordre public. Ce courrier qu'il reçoit au mois d'août lui a fait perdre son travail parce que son patron, c'est un mec super, mais par rapport à la loi française, bah, il se met hors la loi s'il embauche quelqu'un qui est sous OQTF. Donc il se fait licencier. Il finit par quitter son studio parce que trop de dépenses, donc il retourne chez Emmaüs. Et pour le moment, il ne peut plus travailler à cause de l'OQTF. Et il ne pourra pas retravailler avant, on ne sait pas quand. Alors si je me mobilise pour Abdi, c'est parce que j'ai toujours trouvé l'injustice absolument insupportable. Et le fait qu'on m'ait forcé, en plus, à me battre pour avoir une vérité qui me semble juste basique, un petit peu de dignité par rapport à nous, par rapport aux parents de Florent. Ça me pousse encore plus à défendre Abdi. Je trouve ça scandaleux qu'on maltraite ainsi des gens qui n'ont pas les ressources pour se défendre. Abdi a payé sa dette, ils ont accepté leur peine, ils nous ont demandé pardon, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. Je pense que je le fais aussi pour Florent, qui serait entièrement d'accord avec ma position, j'ai pas trop de doute là-dessus. Voilà. Je suis revenue à Vannes depuis quelques petites années et au mois de septembre, je repars définitivement à Madagascar. Là-bas, je vais entre autres m'occuper de l'association Utopique Loustique, qui est une association qu'on a montée avec des amis en 2011 et avec laquelle on a créé une école dans mon village, école qu'on finance depuis. Et le premier élève a passé le bac cette année, donc j'espère y être pour sa remise de diplôme, parce que je suis sûre qu'il va l'avoir. Et puis le projet est aussi de boucler les travaux sur Tanit dans les 2 ans qui viennent. L'idée, c'est que d'ici 2 ans, avec un skipper, on puisse ramener Tanit à Madagascar et quelque part continuer un peu ce qu'on avait mis en place avec Florent, c'est-à-dire qu'on avait commencé des échanges avec des écoles et on pensait faire un peu des échanges pédagogiques autour du voyage, de la découverte. Et donc j'aimerais bien que Tanit puisse emmener les loustiques en balade à la découverte de leur île et des îles de l'archipel.
C'était Chloé et les pirates, un reportage de Rémi Dibovski qui doit être réalisé par Anne-Laure Chanel, mixé par Grégory Wallon. Merci à Chloé Lemasson, à Abdi Mohamed et à Pascal Beauchamp. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.